Dans cet épisode, je reçois Gary. Avec Gary, on va parler du co-living et plus particulièrement du co-living senior. Gary a monté une société qui s'appelle Chez Jeannette, qui permet à des seniors de se retrouver dans des lieux sympas. On va en discuter en détail avec lui, on va essayer de comprendre son modèle. Gary est avec moi et je vais demander à Gary de se présenter en quelques minutes.
Bonjour, je suis Gary Martins, cofondateur de Chez Jeannette, société créée il y a maintenant 4 ans avec mon associé Alexandre. Tous les deux, on a un parcours plutôt de financier. Alors, j'ai un diplôme d'ingénieur en génie civil de l'INSA de Lyon au démarrage, mais j'ai vite bifurqué pour aller faire de la finance pendant une dizaine d'années en accompagnement de dirigeants d'entreprises qui souhaitaient vendre, acheter, faire des levées de fonds. Et mon parcours personnel, par ailleurs, m'a amené à créer Chez Jeannette pour... essayer de répondre à un problème identifié quand mes parents ont dû accompagner mes grands-parents dans la perte d'autonomie. Je me suis aperçu d'un trou dans la raquette sur notre marché et avec Alexandre. Voilà.
Alors on a le sujet de le co-living. On a déjà un petit peu déblayé le sujet sur un autre épisode, mais c'est plutôt le co-living classique tel qu'on connaît avec une cible qui est plutôt le trentenaire. Celui qui vient de démarrer dans la vie active, pas le co-living étudiant puisque ça c'est la résidence étudiante, mais le co-living. Donc on a eu Julien de Chéris qui est venu nous en parler. Là on est sur une étape de co-living senior. Donc l'idée tu vas nous en parler, c'est ça, parce que quand on parle de là on parle de RSS peut-être, de résidence senior service, ou pas du tout?
Pas du tout,
pas du tout.
C'est loin de nous la RSS.
D'accord.
On est vraiment sur un cadre de domicile et de co-living. Donc finalement c'est du co-living, même format que du co-living jeune, sauf qu'on a un partage de services qui va se faire dans une dimension assez, assez différente de ce qui se passe dans du co-living jeune.
Donc l'idée c'est, comme son indique, c'est du co-living senior. Donc on est senior à partir de quel âge?
On est senior à partir de 65 ans, même si la population qu'on va accueillir actuellement dans ces co-living est plutôt plus âgée. Aujourd'hui, la moyenne est plutôt entre 80 et 90.
D'accord. Ok. Toi, à la base, donc c'est une expérience personnelle. Pour filer un peu la métaphore sur l'âge, tu avais une idée de à quel moment c'est pertinent de rentrer en co-living, à quel âge le marché t'a fait penser autrement et peut encore évoluer, parce que c'est quand même un marché qui est... très jeune et encore très petit, et qui nécessite beaucoup de développement.
Ouais, quand on a monté le projet, l'idée qu'on avait en tête, c'était d'accueillir des seniors encore très autonomes. Je pense que quand on imaginait le profil type, on était sur du 70-75 ans maximum, des personnes qui abordaient, qui étaient encore... qui voulaient partager finalement, trouver de la convivialité, mais qui n'étaient pas encore dans cette perte d'autonomie. En réalité, la vérité, elle est un petit peu différente. La typologie de seniors qu'on va accueillir, c'est des gens qui abordent la perte d'autonomie, donc qui sont le cran d'après finalement. Et l'anticipation de trouver un logement adapté à ses besoins en amont de cette perte d'autonomie, c'est pas encore dans les mœurs. Alors, y aura certainement un futur, puisque aujourd'hui, toutes les familles qui sont génération future de l'habitat partagé se disent on veut habiter comme ça avec des amis plus tard et du coup anticiper un peu plus cette période, mais pour l'instant on est clairement sur des
seniors. Donc aujourd'hui les gens qui sont dans tes résidences, c'est des gens qui commencent à perdre un petit peu en autonomie.
C'est ça, perte d'autonomie. Des gens, il y a quelques personnes qui cherchaient en fait finalement de la convivialité, qui se retrouvaient isolées suite au décès de leur mari, de leur femme. Et après, c'est beaucoup de personnes qui ont eu un petit accident de la vie, une chute, un événement qui les a poussés à remettre en question leur sécurité, leur bien-être à domicile.
Oui, il y a forcément un moment, l'âge avançant, donc on peut se retrouver seul, c'est-à-dire perdre son conjoint, on a un peu moins d'amis, la famille peut être loin, donc on est un tout petit peu isolé. Et donc l'idée, c'est de se dire, je vais retrouver d'autres personnes et j'aurai un peu de convivialité, des gens autour de moi, ce sera un peu plus vivant. Ça peut être...
Ça, c'est l'argument numéro un. Et le deuxième, c'est le partage du service. Quand je perds en autonomie, j'ai besoin de service. Et organiser du service, c'est très compliqué à domicile.
Oui, c'est ça. La solution, c'est de dire je reste chez moi, mais il faut qu'il y ait des gens qui viennent. Et ça, c'est quoi les solutions aujourd'hui?
C'est du service à domicile. Alors, il y a l'aide familiale, ouais. Bien entendu, mais ça devient très vite lourd pour les familles. Et après, c'est du service à domicile qui s'achète à l'heure, avec une certaine rigidité dans la mise en place. C'est à la demande et ça coûte aussi vite très cher.
C'est ça. Ouais.
Quand on est perdu un point.
C'est du temps, ça peut être du stress pour la famille parce qu'on n'est pas là tout le temps à disposition, il peut se passer plein de choses. Et donc, le fait de se retrouver dans une petite communauté, c'est peut-être aussi rassurant pour tout le monde. Et donc, pour entrer un peu dans le vif, moi j'ai visité une de tes résidences à Colombes, c'est ça?
Oui. Oui. Pas résidence du coup, on dit maison partagée, habitat partagé.
Maison partagée, voilà. Il y avait combien de chambres dans cette...
On est sur une maison pour 9 seniors.
D'accord. En surface, je crois qu'elle est assez grande.
Oui, on fait un peu plus de 400 mètres carrés.
Voilà, les chambres individuelles vont de 15 à 20 mètres carrés.
Un peu plus grand. Si on parle des suites, chambre plus salle de bain, on démarre à 17 jusqu'à 27 ou 28 mètres carrés. Je crois.
Voilà, donc chacun a son petit confort avec sa salle de bain, son lit, un peu d'espace pour mettre ses meubles personnalisés. Et il y a les espaces communs.
C'est ça. Okay. Le principe, c'est de valoriser l'espace commun pour avoir une vie familiale, finalement, dans le salon, salle à manger, la cuisine.
Ça peut être une vie donc, avec les autres résidents, donc partager des moments, ou recevoir sa famille.
C'est tout à fait libre. Donc, du coup, on est dans un cadre de domicile. Les gens sont résidence principale ou résidence secondaire dans ces maisons. Donc, leur famille peut entrer et sortir comme elle le souhaite.
Et dans les espaces communs, de mémoire, il y a un grand salon. Il y a même plusieurs, je crois.
Là, il y en a plusieurs.
Il y avait une grande cuisine, un grand salon où les gens peuvent se retrouver ou accueillir de la famille. Il y avait un grand espace qui pouvait être dédié à une salle de cinéma. C'est le genre d'espace. Je ne sais pas si la salle de sport est pertinente.
En l'occurrence, on a une salle dans laquelle ils peuvent avoir des activités, gym douce, des choses comme ça. Mais ça peut être assez variable d'une maison à l'autre, en fait, finalement. L'immobilier s'adapte un petit peu au lieu dans lequel on vient l'inscrire.
Et en termes d'accompagnement, donc les gens ne sont pas seuls.
Non, donc il y a du service à domicile.
Voilà.
C'est un domicile, service à domicile. Et l'avantage d'être neuf dans une maison, c'est qu'en fait, on peut partager le coût de ce service et d'avoir un service intensif tout en ayant un prix maîtrisé. Donc là, on a 5 personnes qui accompagnent ce groupe de seniors, 2 personnes en journée, 1 personne la nuit et 5 personnes parce qu'il faut faire tourner
les
l'équipe
rotations,
pour pouvoir faire du 24-24, 7 jours sur 7.
Ok. Donc tu dis 3 personnes en permanence,
deux personnes la journée et une personne la nuit.
D'accord. Et ces personnes font quoi?
Alors, elles vont accompagner les seniors dans un état d'esprit très participatif. Donc, chacun reste acteur de son quotidien et fait tout ce qu'il est capable de faire. Mais l'équipe est là pour les suppléer sur tout ce qui va être ménager, entre guillemets. Donc, gestion du linge, le ménage, les courses, la préparation des repas. Elle va être capable de l'accompagner aussi sur tout ce qui va être perte d'autonomie. Aide à la douche, à la toilette, aide à l'habillage, en fonction des besoins du senior. Et la coordination de tout ce qui va être organisation des soins qui ne sont pas fournis par l'équipe, mais on va aller chercher ça dans l'environnement direct de la colocation, donc des infirmiers libéraux, des kinés, ainsi de suite, qui vont être là pour intervenir aux côtés des seniors.
D'accord, donc il y a de l'animation, c'est-à-dire que les personnes qui sont là pour donner un coup de main sur le quotidien, pour animer un petit peu cette petite communauté, pour proposer des jeux.
Des jeux, des sorties, l'idée de répondre à l'ensemble des besoins, des envies des seniors. Donc on redonne goût à des seniors qui adorent aller au cinéma, on les aide à retourner au cinéma alors qu'ils n'y allaient plus. S'il y a des passionnés de musique, on essaie de trouver des activités autour de la musique. Et c'est vraiment du personnalisé jusqu'au plus loin possible.
D'accord. D'ailleurs, on est le jour de la fête de la musique où on enregistre et tu me parlais de l'organisation d'un événement.
On a une des colocations qui a décidé de faire venir une chanteuse lyrique pour la fête de la musique et d'inviter des voisins, l'ensemble de l'équipe chez Jeannette. Donc, on a la chance d'y aller. Donc c'est un moment sympa.
Donc, l'idée, c'est vraiment de recréer de la convivialité et de lutter contre la solitude.
Lutter contre la solitude et accompagner la perte d'autonomie du mieux possible. Permettre à ces gens de rester acteurs de leur quotidien le plus longtemps possible.
Ouais, parce que l'alternative, ou alors ce qu'on pouvait faire avant, c'était rester chez soi, avoir de l'aide extérieure, avoir un peu de famille, mais globalement être quand même pas mal tout seul, avec les risques associés à la solitude. Parce que l'étape d'après, la perte d'autonomie, c'est quoi finalement?
Aujourd'hui, il y avait 2 autres solutions après le domicile. C'était la résidence service senior et l'EHPAD. Résidence service senior, on est sur une offre très hôtelière où leur rôle, c'est pas la prise en charge, c'est pas le service prise en charge de la perte d'autonomie. Donc en fait, ça bloque un petit peu actuellement parce qu'en fait, on a des seniors qui veulent rester le plus longtemps possible à domicile. Et en fait, quand ils doivent déménager, finalement, la RSS est déjà trop tard parce qu'ils sont en perte d'autonomie. Donc, la RSS ne répond pas à cette problématique-là. L'EHPAD, grande dépendance.
Oui. Et l'EHPAD, c'est une étape... en fait, il n'y avait pas vraiment d'entre-deux.
Non.
Et l'EHPAD, quand on y rentre, généralement, on ne sort pas en meilleure santé.
En durée de vie moyenne en EHPAD, on doit être autour d'un an. Quoi.
Ouais.
Donc c'est vraiment... les 120 personnes que vous avez trouvées là-bas, la prise en charge de la grande dépendance fait que c'est pas un environnement dans lequel on peut laisser le choix aux gens. Donc en fait, on s'oublie. La personne s'oublie et souvent se laisse aller, prise en charge par l'EHPAD jusqu'au décès. Quoi.
Donc, ouais. C'est quoi la limite de la stabilité partagée à partir, enfin, jusqu'à quel moment on peut rester et on peut arriver tôt voilà, si on est en bonne santé, enfin, il n'y a pas de raison, mais à partir de quel moment en fait on n'a plus sa place?
C'est une problématique de bien-être et de sécurité. Donc en gros, c'est un environnement ouvert, c'est un domicile, donc on entre, on sort comme on veut, ce qui exclut certaines pathologies type l'Alzheimer avancé, quelqu'un qui pourrait fuguer ou être violent avec ses colocataires, ça on peut pas l'accompagner. Et le deuxième volet qui est difficile à accompagner, c'est des gens qui ont des pathologies qui nécessitent des interventions d'urgence médicale. C'est-à-dire que quelqu'un qui a besoin d'une injection en 5 minutes quand il y a un problème, très compliqué de l'accompagner, puisque c'est une infirmière libérale qui va intervenir quand elle est dans un habitat partagé, et l'infirmière libérale, on ne peut pas garantir qu'elle soit là en moins de 15 minutes. Dans un EHPAD, il y a quelqu'un à demeure, il y a une infirmière en permanence dans les murs, donc on peut gérer ce type de situation. Pour tout le reste, ça va dépendre, ça va être vraiment du cas par cas, mais on est capable d'accompagner très loin une personne dans la perte d'autonomie physique, on peut quasiment aller jusqu'au bout, et après perte cognitive, ça va dépendre un petit peu de ces pertes cognitives et des conséquences.
Ça fait combien de temps que tu as lancé ça, tu disais 4 ans?
Ouais, ça, alors la première maison elle a moins que ça, puisqu'en fait le projet est né en fin 2020, et la première maison a ouvert en 2022, juillet 2022.
D'accord, bon, le temps de monter le modèle, de structurer, de trouver des sous, de trouver des premiers clients, etc. Aujourd'hui, tu as combien de résidences?
On a 4 maisons en fonctionnement actuellement, et on en aura une dizaine à la fin de l'année.
D'accord, donc le remplissage se fait rapidement.
Ouais. Le remplissage se fait rapidement, on est sur des petits volumes par rapport à des EHPAD ou d'autres établissements, et avec des réseaux de prescripteurs spécialisés qui font que dans une zone, en fait, assez rapidement, en mobilisant ces prescripteurs, on arrive à remplir.
Donc il n'y a pas de souci sur la clientèle, la demande est là en fait.
Ouais, et puis on bouche un trou, quoi. Donc, donc en fait, il y a une demande de base.
Il n'y a pas de réticence à se retrouver en co-living? Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme frein aujourd'hui et pourquoi les gens finalement acceptent ou sont enclins? C'est pas très naturel de se redire je retourne en coloc avec l'âge, alors que on a, je dirais vulgairement, on a passé l'âge de se retrouver en communauté, on a peut-être pas envie, ou peut-être justement on a envie de retrouver du lien.
Alors le pourcentage de personnes qui ont envie de retrouver du lien, il est faible. Enfin, je dirais c'est 20% et 80% un peu de réfractaires, de personnes qui comprennent pas pourquoi. C'est aussi pour ça qu'on est sur une génération qui arrive dans ces établissements, qu'aujourd'hui une génération qui a pas connu la colocation. C'est des gens, c'est avant mai 68, c'est avant, donc une génération qui est un peu réfractaire à ça au démarrage, et donc qui arrive en fait au moment où elle a plus le choix de rester à domicile. Pour les 80% dont je parle. Et donc là, on leur propose l'alternative. C'est, est-ce que tu veux aller en EHPAD, perdre ton autonomie, perdre ton libre-arbitre, ou est-ce que tu veux tester l'habitat partagé? Voilà, je vous présente les deux, vous allez visiter les deux, il n'y a rien à voir. Il y a un cadre qui est complètement non stigmatisant, le deuxième qui l'est beaucoup plus. Donc en fait, les gens testent l'habitat partagé, et dans 90% des cas, ça se passe très bien, ils s'y font. On n'est pas habitué à vivre en communauté, mais en fait, c'est quelque chose qui se réapprend aussi.
Oui, oui. Et on avait parlé des modèles existants déjà dans d'autres pays. Je crois que c'est peut-être émergent chez nous, mais pas chez les autres forcément.
C'est pour ça qu'on n'a pas eu trop peur quand on s'est lancé avec Alexandre dans le sujet. C'est qu'en Allemagne, il y en a près de 4000 des habitats partagés. Il y en a aux États-Unis, il y en a dans les pays du Nord. Donc c'est quelque chose qui est déjà éprouvé et puis finalement qui a du bon sens aussi.
Et en termes de turnover, mais c'est pas forcément le bon terme. Mon point, c'est plutôt de dire les gens restent.
Ouais, la durée de passage moyen d'un senior dans un habitat partagé, alors je vais me baser plutôt sur les statistiques de ces 4000 colocations, mais plutôt sur des séjours de 4 à 5 ans en moyenne, parce qu'ils ont des séjours plutôt longs pour des personnes âgées qui perdent en autonomie quand même.
Ouais. Donc ça veut dire que tu arrives à 75 ans, à 80 ans, tu as besoin d'autre chose, quoi.
Alors là, on est plutôt, si on se fie à ce qui se passe, c'est plutôt j'arrive à 85 et je pars à 90 ou à 80. Et voilà, donc on est plutôt sur ces horizons-là, sachant qu'on est inégal quand même face à la vieillesse. Donc il y a des gens qui vont avoir des problèmes de santé qui vont s'aggraver. Il ne faut pas se leurrer non plus. C'est un cadre dans lequel il y a des gens qui font des séjours à l'hôpital et ne reviennent pas, qui ont des pathologies qui s'aggravent. Enfin voilà, on est sur un public particulier.
Quelle est la réception des familles qui mettent, qui peuvent pousser ou qui retrouvent finalement à avoir une personne de leur famille dans un habitat partagé?
Ah, je pense que le mot qu'on entend le plus, c'est l'espoir, en fait, finalement. Les familles qui aujourd'hui se retrouvent à devoir gérer la situation de leurs parents et qui imaginaient devoir les mettre en EHPAD, quand ils arrivent à trouver une solution de ce type-là, ça leur donne un peu le sourire, parce qu'ils se disent, ok, en fait, j'ai trouvé quelque chose de plus humain et plus vivant pour mon père, pour ma mère. Donc c'est très bien accueilli aujourd'hui.
J'imagine qu'une sorte de soulagement, peut-être, de se dire j'ai trouvé une place où, qui a l'air sympa, où cette personne va se retrouver avec d'autres personnes, ça va créer un. Voilà, c'est forcément, je dirais, stimulant d'avoir des gens autour de soi.
Oui, tout à fait. Ils ont un vrai rôle dans l'habitat partagé aussi. Mmh. Les familles ont un rôle. À l'inverse, il faut aussi se méfier, parce que du coup, des familles peuvent avoir tendance un peu à mentir sur le niveau d'autonomie de leurs parents, sur le, parce qu'ils veulent orienter vers cette solution. Mais généralement, ça se passe bien et voilà, on a des familles très impliquées dans les projets.
Et alors, tout à l'heure, tu disais qu'il y a des gens sur place qui vont aussi s'occuper de la nourriture. Donc, la nourriture est prise en charge, les dîners, les repas sont inclus. Comment ça se passe? Ou ils peuvent cuisiner aussi?
C'est comme dans une coloc pour jeunes. L'idée qu'on avait en tête avec Alexandre, c'était d'avoir quelque chose qui soit le plus naturel et le plus qui laisse le plus de place au choix pour les seniors. Donc en fait, ce qui laisse le plus de place au choix, c'est on met en commun, donc dans ce qu'il aurait facturé tous les mois, il y a une provision pour nourriture, comme on le ferait dans une coloc, on met dans un pot commun et il décide toutes les semaines. Donc ça dépend un peu le rythme, ça dépend un peu des colocations, mais il décide ce qu'ils veulent manger. Mmh. On fait les courses avec eux ou pour eux en fonction des sujets. Et puis ensuite, la nourriture, elle est préparée soit avec les colocataires, soit par l'équipe si en fait les colocataires sont occupés à autre chose.
Ouais. Mais il y a quand même une sorte de médiateur ou de régisseur qui va s'occuper d'organiser un peu tout ça pour pas que ce soit autogéré, on va dire.
Dans l'équipe de 5 personnes, il y a une coordinatrice ou un coordinateur dont le rôle, c'est d'accompagner l'équipe, mais d'accompagner aussi le groupe de seniors pour que chacun existe dans le groupe. Et participe à orienter ce groupe et les choix du groupe. Voilà, donc c'est pour ça qu'on limite la taille des groupes. Aujourd'hui, nos habitats, on essaie de rester au-dessous de 10 places par habitat senior, ce qui permet vraiment à chacun d'exister dans ce groupe-là, quoi. Plus, ça commence à devenir compliqué.
Il y a un sujet de réglementation, justement, sur le nombre de personnes, sur le nombre d'accompagnants, ou c'est un peu libre ?
On est sur un marché qui est naissant. Il y a des questions qui se posent en permanence. Le cadre, c'est un cadre de domicile. Donc la réglementation, en théorie, c'est celle du domicile. Et en même temps, on touche à une population qui est une population de seniors, donc une population fragile. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi dans ce cadre-là. Le chiffre qui apparaît un petit peu comme le chiffre sensible, c'est le chiffre 12. Donc au-dessus de 12 personnes, il y a un risque de requalification en résidence-service avec des nécessités d'être ERP, établissement recensement du public, ainsi de suite, qui s'accroît. On préfère rester loin de ce chiffre-là. Et en même temps, il y a une vraie raison opérationnelle derrière, que ce soit dans l'accompagnement ou dans le projet proposé aux seniors, il faut rester à taille humaine.
Oui, c'est ça, j'allais dire que l'industrialisation ne doit pas forcément bien se passer, ça déshumanise probablement un peu si tu passes à des résidences de 30 ou 40 personnes avec plus d'accompagnants et peut-être moins de liens. Enfin, j'en sais rien, mais je me dis, voilà, forcément, il y a un chiffre au-delà duquel tu as des groupes dans le groupe et tu n'as pas forcément la même ambiance.
Nous, notre sentiment, c'est qu'il ne faut pas être trop petit. Trop peu de seniors, il y a risque qu'une personne se retrouve exclue un petit peu du groupe, mise de côté. Enfin, ça, on l'a tous vécu en famille. Voilà, ça arrive souvent. Et trop gros, ben, en fait, on peut se perdre dans le groupe. Donc, il y a un peu cet entre-deux. En revanche, ce qui est possible de faire, c'est de pouvoir associer deux habitats partagés qui ont leur équipe, leur autonomie de fonctionnement, leur rythme, mais les coller l'une à l'autre si à un moment donné on a envie de créer de la synergie un petit peu et de faire quelque chose d'intelligent.
Alors là-dedans, toi, t'es opérateur, c'est-à-dire que, pour parler un peu immobilier, tu ne détiens pas l'immobilier ou tu n'as pas forcément vocation à le faire, donc tu as besoin de trouver de l'immobilier. Tu as besoin de trouver des actifs qui sont compatibles avec cette organisation. C'est-à-dire que tu vas chercher quelle surface ou quelles sont tes contraintes là-dessus.
Aujourd'hui, l'immobilier, on cherche, le critère numéro un, c'est la localisation. On a un public qui perd en autonomie, donc qui est moins mobile, et le but, c'est de rendre l'inclusion dans la société au maximum. Donc du coup, on va chercher des emplacements centre-ville, proche des commerces, proche des services. Donc ça, c'est le critère numéro un. Ensuite, on a un modèle qu'on a voulu assez souple, pour pouvoir s'adapter à différentes typologies d'immobilier. Donc on va être capable, là les projets qu'on a développés jusqu'à maintenant, c'est des maisons, donc avec des étages, on installe des ascenseurs, enfin on fait ce qu'il faut pour les rendre adaptés. Et on va démarrer sur des surfaces qui vont faire à peu près 250-280 mètres carrés, et on peut aller sur des surfaces plus importante, avec une limite qui est la limite de ne pas faire du grand ensemble et donc pas ressembler à une RSS ou à un EHPAD, c'est pas l'objectif, mais de rester des projets à taille humaine. Donc aujourd'hui, notre scope, c'est du 200-250 jusqu'à 1000 mètres carrés, et 1000 mètres carrés, c'est vraiment exceptionnel dans ce qu'on fait.
D'accord. Aujourd'hui, les résidences, les habitats partagés font de quelle taille et quelle taille sur ton parc ?
290 pour la plus petite, celle qu'on a, et 420, je pense.
D'accord. Il y a un ratio occupation, taille, nombre d'occupants sur la taille ?
Dans les projets neufs, oui, parce qu'en fait, on essaie d'être efficace, on construit pour, et voilà. Sur de la réhab, en fait, ça va dépendre de la configuration de la maison initiale. Donc, il y a des maisons dans lesquelles on va avoir de la perte de place, mais parce qu'on ne peut pas exploiter.
C'est structurel.
Voilà. Donc, ça dépend. On est très attentif à avoir des espaces communs qui soient taillé pour le nombre de seniors qui vont être accueillis dans la maison.
Oui, parce que le sujet, c'est si tout le monde reçoit sa famille le samedi, il faut un peu de place quand même pour recevoir tout le monde.
Oui, et puis ce qu'on veut, c'est que les gens passent, le chiffre qu'on donne, c'est 70% à peu près de la journée dans les communs. Pour ça, il faut avoir des communs qui soient accueillants, qui soient suffisamment spacieux pour qu'on ne soit pas entassés les uns sur les autres, sinon ça ne marche pas.
Je crois que le ratio en co-living, c'est 25 mètres carrés par personne. Espace commun plus espace privé.
On est sensiblement plus élevé.
Ouais.
Alors, sur les projets neufs, notamment, on est plutôt autour de 35 mètres carrés.
Alors, c'est intéressant. Donc, là, aujourd'hui, tu es plutôt sur l'existant. Tu as réhabilité l'existant.
Ouais, parce que c'était plus rapide.
Voilà, il existe. Donc, il n'y a plus que des travaux à faire pour réaménager.
Oui, puis ça a d'autres vertus aussi. On participe à la rénovation énergétique aussi du parc immobilier. Donc
ouais, je dirais qu'il y a... La vertu, c'est un, de rénover une grosse bâtisse peut-être, et puis de densifier un peu son usage. Puisque
de rendre un usage pour le coup, il y a plein d'actifs de ce type-là qui aujourd'hui trouvent plus preneur. Parce qu'une maison de 350 mètres carrés, des familles qui cherchent ça, ça devient de plus en plus compliqué.
Ouais, en fait, c'est grand, et du coup, c'est cher, et c'est cher à entretenir. Et finalement, il n'y a qu'une famille dedans. Là, une famille de 4 ou de 5, ce qui est une grande famille. Mais là, tu proposes de mettre 7-8 personnes, plus des gens qui travaillent. Donc, c'est vrai que ça revalorise pas mal le bien. Et puis, ça permet peut-être de le rénover, comme tu le dis, d'un point de vue énergétique, de façon efficace, parce que les coûts sont pris en charge. Ouais,
l'engagement qu'on a aujourd'hui avec les investisseurs avec lesquels on travaille, c'est de remonter généralement de 2 ou 3 notes le DPE. On sort en DPE C ou B sur des maisons qui étaient des maisons qui souvent étaient plutôt en F.
Tout en bas de la liste, ouais. Si elles étaient notées, quoi. D'accord. Sur du neuf, du coup, t'as des projets que tu étudies et des projets neufs qui sont sortis. Comment t'apprends un projet neuf ? Parce que là, c'est au niveau du permis de construire qu'il faut penser quelque chose, ou tu peux arriver sur un ensemble qui commence à être un peu conçu en le repensant à l'intérieur ?
On peut faire pas mal de choses quand même, parce qu'en fait, on reste, le cadre reste encore une fois domicile. Donc, ce qu'il faut, c'est pouvoir réadapter. Chambre plus salle de bain, voilà, donc on pourrait le faire, et on le travaille actuellement là sur des projets sur lesquels il y a des plateaux qui ne trouvent pas preneur, qu'on peut faire réadapter pour devenir de l'habitat partagé. Donc ça pourrait être un appartement, regrouper deux appartements de 150 mètres carrés dans un immeuble. Et ce qui est le plus facile, c'est de pouvoir arriver très en amont des projets. Mais on peut intervenir à peu près à n'importe quel niveau aujourd'hui, avec un degré de facilité qui est un peu différent en fonction des projets. Mais quand on est capable de fonctionner en réhab, en fait, on est capable de fonctionner sur toute la chaîne.
Sur de l'adaptation du neuf, un petit peu en amont, ce qui n'est pas idiot. Donc, le modèle, c'est que tu ne détiens pas l'immobilier, donc tu es exploitant, donc tu prends un bail. Mmh. Okay. Derrière, il y a des investisseurs qui vont détenir ces murs. Aujourd'hui, c'est plutôt des investisseurs particuliers, ça peut être des institutionnels.
Aujourd'hui, c'est beaucoup des instits. Mmh. On a quelques particuliers, c'est intéressant pour nous aussi, des gens qui ont des grosses demeures et qui souhaitent les revaloriser, les garder en patrimoine. Mmh. Mais par contre aller chercher du rendement, donc là nous on est capable de répondre à ces enjeux là aussi, et on a de plus en plus en ce moment des marchands, des foncières qui ont des stratégies de créer des petits portefeuilles d'actifs de ce type là pour ensuite les placer chez des investisseurs institutionnels.
D'accord.
Et donc faire un petit peu le travail que les institutionnels rechignent un peu à faire.
Ouais, c'est-à-dire atteindre une sorte de taille critique de portefeuille avec X habitats partagés qui font un volume d'investissement conséquent pour lesquels voilà, c'est un package qui est revendu à un investisseur qui n'a pas à se cogner toutes les lignes et faire toutes les due deals.
Et
voilà.
Gérer des travaux qu'il n'a pas envie de gérer. Enfin,
C'est vous qui gérez les travaux du coup là.
Ça dépend des opérations du coup. Quand on est avec des marchands, c'est eux qui sont les plus spécialisés pour ça. Quand on est avec des investisseurs institutionnels, on peut gérer pour eux avec des prestataires externes aussi. Hein,
D'accord. Ok. Donc ton modèle, c'est du co-living. Donc ça veut dire que tu prends un bail et tu dois relouer derrière à tes occupants et gagner de l'argent entre les deux parce qu'il faut quand même bien vivre. Sachant que, comme on a expliqué, il y a quand même de la masse salariale. S'il y a 5 personnes sur une résidence, ça fait vite du volume en charge.
Pour comprendre le modèle, il faut comprendre la structuration. On a dit qu'on était sur du domicile. L'idée, c'est domicile, service à domicile. Donc, en fait, il y a deux sociétés qui vont intervenir auprès des seniors. Une société chez nous qui s'appelle Chez Genet Habitat, qui est la société qui va gérer le volet immobilier, qui va monter les projets, les placer auprès d'investisseurs, prendre à bail et sous-louer aux seniors. Et de l'autre côté, une société de service à domicile qui va employer le personnel qui va intervenir dans les maisons et facturer un forfait de service aux seniors pour cet accompagnement fourni au quotidien. Donc en fait, il y a deux sources finalement, et de revenus et de marge dans le modèle. Il y a la source de revenus et de marge immobilière, et puis il y a la source de revenus et de marge service.
D'accord. Oui, c'est logique. Ouais, tu dissocies l'immobilier du service, ce qui fait que tu prends un bail, tu reloues quelque part. Le senior, il a une facture, deux factures.
Il a deux factures.
Deux factures.
Et c'est ce qui est important à comprendre dans ce modèle-là. Hein, c'est un modèle, ce qui différencie par exemple de la RSS. En RSS, ils ont le droit, de par leur statut de RSS, de lier les deux contrats.
D'accord.
Nous, on n'a pas ce droit-là. Donc un senior qui habite dans un habitat partagé, c'est son domicile. Mais il peut décider d'arrêter le service si le service n'est pas bon ou ne répond pas à ses besoins.
D'accord.
Et d'en prendre d'en sourcer un autre. C'est du service à domicile, donc il y a un contrat qui est complètement indépendant du deuxième service. Donc en fait, c'est des choses qui fonctionnent en parallèle.
D'accord. Ok. En termes de coûts, donc quand on en discutait la dernière fois, tu me disais que faut pouvoir arbitrer entre tes différentes options. Il y a un coût associé à cette solution de co-living, mais tu me disais que ça restait en deçà de, alors je sais plus,
les pads privés.
Ouais.
En gros, quand on a fait un peu notre étude de marché, l'idée c'est de bien comprendre le positionnement en termes de volume de services et de services offerts. Aujourd'hui, la solution qu'on propose, elle est assez dense en services, ce qui nous amène à jouer en termes de volume de services dans la cour de ce qu'offre l'EHPAD. En taux d'encadrement, on est plus élevé que l'EHPAD, nombre de TP par senior. On a un cadre qui est très humain, tout le monde s'appelle par son prénom, qui est très, très personnalisé. Il y a juste quelques profils d'EHPAD qu'on n'est pas capable d'accompagner dans un habitat partagé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens qui postulent pour rentrer dans un habitat chez Genet, généralement, ils ont le choix, ils sont à une étape de leur vie où ils choisissent entre aller en EHPAD ou aller dans un habitat partagé. Donc nous, finalement, on utilise ce cadre-là, de marché-là, pour positionner notre offre et positionner notre prix et faire fonctionner le modèle.
Parce qu'effectivement, comme tu as deux volets, on imagine que le volet immobilier, ça ne va pas être le même dans le centre de Paris qu'en banlieue parisienne, qu'en province. Donc tu as des coûts qui sont différents, qui sont associés à cette matière première immobilière. Et le cadre de service, est-ce qu'il y a une grosse différence entre les emplacements ?
Le cas de service, il est globalement le même, puisque finalement, c'est la main-d'œuvre, on la trouve, c'est à peu près le niveau de paie et de salaire, c'est à peu près la même chose dans toutes ces zones-là. Donc en fait, ce qui est important de comprendre, ce qui est important dans le modèle, c'est que les gens vont très peu regarder le loyer indépendamment, ils vont évaluer le coût de la solution au sens large, tout compris. Donc nous, on va parler de reste à charge.
Ouais.
Comme on parle de reste à charge dans un EHPAD.
Alors justement,
la distinction entre le loyer et le service.
Justement, reste à charge, du coup, il y a des prises en charge, il y a des aides.
Oui, il y a des aides qui interviennent dans le modèle sur la partie service uniquement. Donc c'est la partie service à domicile, il y a des crédits d'impôt qui sont, tout le monde y est éligible. Donc ça, c'est des choses qui sont automatiques. Et puis après, il va y avoir des aides spécifiques en fonction du niveau d'autonomie ou du niveau de ressources du senior. Des aides type l'APA, des choses comme ça, qui sont des prises en charge par le département, qui viennent baisser la note en fonction des
profils. D'accord.
Des
gens. Donc comment ça se finance globalement ? Je réfléchis. La personne âgée, elle touche une retraite. Est-ce que cette retraite peut être suffisante pour payer l'ensemble ou elle doit compter sur à la fois le crédit d'impôt et les aides ? Ça dépend de la retraite de la personne.
Ouais, ça dépend de la retraite de la personne, mais c'est rarement le cas.
Ouais.
Aujourd'hui, en France, si on veut un accompagnement décent, en fait, ça va souvent dépasser le montant des retraites des personnes, à moins d'avoir une retraite excessivement élevée. Donc souvent, c'est les gens vont puiser dans leur patrimoine ou les familles vont aider pour aider à cette prise en charge. Aujourd'hui, on ne se paye pas un EHPAD privé sans avoir ce type de démarche-là. Moi, c'est un marché que je ne connaissais pas du tout avant de me lancer dans ce domaine-là, mais c'est même en service à domicile, si on veut être accompagné correctement, les prix explosent parce que c'est du 1 pour 1. Il faut une personne pour accompagner une personne. La personne, on est obligé de la payer. Mmh. C'est minimum le SMIC.
Ouais.
Et enfin, l'idéal, c'est quand même de les payer un petit peu mieux que ça. Et du coup, c'est une équation qui est compliquée à résoudre. Donc en fait, souvent, si on n'a pas les moyens et si on n'a pas le patrimoine pour pouvoir se payer un accompagnement correct, ben, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des concessions sur le service, que ce soit à domicile, dans un EHPAD ou ailleurs. Et souvent, en fait, les gens et les familles font le pont pour pouvoir être accompagnés correctement dans ces phases de perte d'autonomie qui sont importantes et compliquées à gérer.
On peut donner un exemple chiffré, anonymisé, pour ne pas donner un type d'habitat partagé, pour avoir des ordres de grandeur juste.
Non, mais première couronne parisienne aujourd'hui, on va sur des... l'EHPAD privé, il va démarrer à 3005, 3006 par mois. Un habitat partagé, on va être capable de les faire tourner entre 3000 et 3002.
D'accord.
Reste à charge.
Oui, mais encore une fois, pour une ambiance tout à fait différente, là où l'EHPAD peut être complètement surdimensionné à ce stade et où on va sur une décadence, on va dire, santé physique et morale, là où on a quand même du dynamisme.
En EHPAD, alors il faut pas jeter la pierre à l'EHPAD. L'EHPAD, il y a beaucoup de bonne volonté de la part des gens pour faire marcher les choses correctement. La problématique, c'est le nombre, selon moi. C'est que quand on accompagne 120 personnes, forcément, c'est difficile d'avoir une intervention personnalisée. C'est des équipes qui vont tourner, qui sont obligées de travailler un peu à la chaîne pour pouvoir répondre aux besoins de tout le monde. Donc c'est quelque chose qui c'est pas du tout le même état d'esprit qu'un habitat partagé où une équipe de 5 personnes connaît par cœur
les
9 seniors qu'ils accompagnent,
leur vie,
leurs problématiques, ont le temps d'apprendre leur pathologie, de savoir quel est leur état d'esprit. On est sur une approche qui est complètement différente. Et donc ça change la donne pour les familles, pour les seniors, et en termes de prise en charge, on est très personnalisé, donc à notre sens très bon.
C'est ça, donc l'idée, c'est que pour situer un peu le positionnement tarifaire, il est en dessous de l'EHPAD, ça donne un indicateur, je pense, avec un accompagnement qui est beaucoup plus personnalisé à ce stade parce que moins industriel, et puis c'est peut-être va dire, une étape intéressante avant d'aller en EHPAD si tu n'es pas contraint d'y aller. Voilà, c'est, donc tu, là, tu remplis, comme tu disais tout à l'heure, une sorte de vide. Il n'y a pas spécialement de marché ou d'offre à ce stade-là. Et donc, tu permets de... on va pas mettre les gens trop tôt en EHPAD, du coup. C'est ça. Ouais. Donc, OK. Et alors, on ne se refait pas, mais pour repartir sur la partie immobilière. Tu as parlé de rendement tout à l'heure. Ce qui veut dire qu'on parlait des gros volumes. Donc, une maison qui fait 300-400 mètres carrés, si on veut la louer pour la garder en patrimoine, on va la louer à une famille, on va avoir un loyer de marché, mais la règle en immobilier, c'est que plus c'est grand, plus le loyer au mètre carré est faible. Et j'imagine que quand tu évoques la rentabilité, c'est que tu arrives à être beaucoup plus compétitif que ça.
Oui, tout à fait.
Donc, tu arrives à avoir un niveau de loyer qui est bien plus élevé ou au moins plus élevé. Et c'est toi qui prends un bail ?
C'est nous qui prenons un bail, ouais. C'est chez Habitat qui prend un bail pour des durées fermes de 12 ans.
Donc, d'accord.
On sécurise l'investisseur institutionnel sur la durée et prend à sa charge la vacance locative.
Okay.
Notre travail d'opérateur, c'est d'aller trouver les seniors qui vont habiter dans ces maisons et ensuite de leur offrir du service.
Ok, oui, donc il n'y a pas de risque locatif pour le détenteur ou l'investisseur puisque c'est ton problème quelque part et toi, tu dois gérer ton taux d'occupation.
Exactement.
Et aujourd'hui, sur les résidences, sur les habitats partagés que tu gères, le taux d'occupation en moyenne
En rythme de croisière, on va tourner entre 97 et 90%.
Ok, donc comme sur du co-living classique, on est sur des taux très très élevés parce qu'il y a une liste d'attente ou de la demande. Ok. Et avec un turnover qui est somme toute tous les 3-4 ans, c'est ça ?
Ouais.
Ouais, donc assez faible. Non, je dis ça, mais en fait, je ne sais pas si
c'est beaucoup. Non, mais beaucoup. Il y a plusieurs phases dans la vie d'un habitat partagé. Il y a les ouvertures qui, du coup, nécessitent de la mise en place. Puis il y a des gens qui ne vont pas s'y faire. Ou qui vont, donc, en fait, il y a la stabilisation d'un groupe qui va prendre un petit peu de temps. Et donc, il y a une phase pendant laquelle le turnover est un peu plus important. Mais une fois qu'on a un groupe établi, c'est quelque chose qui marche bien. Et puis avec des listes d'attente, comme tu le disais, puisque... on a un habitat partagé, ça rayonne dans son quartier. Donc en fait les seniors sortent, donc l'habitat partagé est connu des voisins et ainsi de suite, et donc en fait ça se remplit très vite quand ça se vide.
Oui, et puis c'est un bon point, c'est les gens vont choisir leur résidence par rapport à là où d'où ils viennent probablement. Ils vont chercher à rester dans leur quartier.
Pour une grosse partie, c'est ça. Et pour l'autre partie, c'est du rapprochement familial. Donc, c'est les enfants qui habitent juste à côté de l'habitat partagé.
Oui. Mais si tu as connaissance d'une résidence à côté de chez toi, tu peux faire revenir la personne de ta famille à côté de chez toi, ce qui est peut-être plus pratique que de traverser la région pour t'en occuper.
Notre rêve avec Alexandre en lançant chez Jeannette, c'était de pouvoir avoir un habitat partagé dans chaque rue de Paris. De se dire, j'ai vécu dans cette rue, j'ai mon boulanger, mon boucher. Voilà. Enfin, qu'est-ce que j'ai envie de faire quand je vais perdre mon autonomie? C'est vivre dans l'appartement d'à côté avec 5, 6, 7, 7 colocataires et perdre en autonomie en gardant mes repères. On n'y est pas encore, mais peut-être un jour.
Ouais. Puis peut-être que tu peux changer d'habitat partagé parce que tu as envie de découvrir un quartier.
Enfin,
on peut imaginer plein de choses hein, en se disant quand j'avais 20 ans, j'habitais dans ce quartier, j'ai envie d'y retourner. Bon, il a probablement beaucoup changé, mais peut-être que j'ai envie d'y retourner. Et dans 2-3 ans, enfin, là, on digresse parce que.
Non, mais c'est rester mélangé à la population, rester vivre là où on a envie de vivre et pas se retrouver mis à l'écart dans des grands ensembles. C'est pas l'objet.
Ouais. Donc effectivement, le critère géographique, c'est où j'habitais là et j'ai envie d'y rester, ou c'est quand même plus pratique de me rapprocher de ma famille. Donc ça peut être... aujourd'hui, tu es plutôt en région parisienne.
Ouais.
Ouais. Avec comment tu vois le développement? C'est d'abord rayonner dans la région parisienne parce que par commodité... c'est plus facile de s'en occuper sur les premières années, mais peut-être un modèle national.
Ouais, c'est le modèle, il se veut national. On a déjà commencé parce que, enfin, voilà, face à des opportunités, et puis avec, on a des ambitions de développement qui sont assez importantes. Donc l'Île-de-France est une zone sur laquelle on va continuer de se développer. On a un gros pipe d'opérations qui arrive. Le Sud-Ouest, sur lequel on a déjà signé, on a lancé des choses qui sortiront à partir de la fin d'année l'année prochaine. Donc voilà, zone Bordeaux, Toulouse, ce type d'agglomération. Le Rhône-Alpes, où on a un certain nombre de projets en préparation actuellement, Sud-Est et Bretagne.
Je dirais, je réfléchissais au bassin des flux et surtout les zones de population, les zones géographiques où on voit la population plus âgée. Je pensais naturellement au Sud-Est, Bon, j'imagine que là, en fait, ton marché, c'est là où il y a des personnes âgées.
Le marché, il est partout.
Mais en même temps, les personnes âgées, il y en a partout.
Il y a une société qui s'est lancée avant nous en France, qui tourne pas mal, alors, voilà, qui s'appelle Agévie, qui depuis a été rachetée par Korian, qui fait ce modèle-là, mais dans des bourgs de 2000 habitants. Et donc, en fait, ça répond aux besoins de lieux où, en fait, il y a un manque de solutions pour les seniors. Donc ça peut venir combler des trous sur des petites villes qui n'ont pas de solution pour accueillir leurs aînés, et ça peut offrir des solutions dans des grandes villes dans lesquelles on n'arrive plus à implanter des solutions pour les seniors. Et donc en fait on est capable de s'implanter vraiment dans tout ce panel là, avec en plus de ce côté solution, voilà, le côté offre un peu différenciante.
Et c'est vrai qu'en termes d'infrastructure, tu peux t'implanter assez vite dès l'instant que tu trouves une surface de 280-300 mètres carrés. Donc t'as pas besoin de construire un ensemble type EHPAD qui doit faire je sais pas combien de milliers de mètres carrés minimum pour accueillir tant de personnes. En fait, ça se déploie avec l'immobilier existant assez facilement. Je sais pas ce que je veux dire, mais non, en tout cas, tu peux trouver de la matière immobilière.
Aujourd'hui, le frein dans le contexte actuel, c'est l'investissement, c'est les investisseurs, c'est trouver les gens dans un marché. On attend des rendements toujours plus élevés, voilà, et puis à un moment donné il faut faire tourner le modèle et rester un peu cohérent dans les solutions qu'on offre aux seniors. Mais aujourd'hui, ce qui nous contraint, c'est ça, c'est pas trouver les biens, parce qu'en fait j'ouvre ce loger et je peux trouver ce soir 10 maisons qui pourraient faire l'affaire et sur lesquelles on pourrait développer des projets.
D'accord. Et tu dis que tu vas monter jusqu'à 10 habitats partagés d'ici la fin de l'année. Ouais. Donc j'imagine que tes journées sont assez courtes aussi. Ouais. Parce qu'il faut courir à droite à gauche. Fais quoi ? T'as un suivi de travaux déjà en amont à faire. Enfin, comment ça se passe ? Identifier le bien. Après, t'as une équipe d'architectes. Comment tu repenses une résidence ?
Il y a deux grands modèles. Il y a le modèle où en fait on travaille avec un partenaire, donc soit un marchand, soit un promoteur. Là, c'est assez simple. En fait, notre job, c'est plutôt de travailler le cahier des charges, travailler la programmation.
Ouais, c'est ça.
Et développer le projet avec eux. Donc là, c'est beaucoup moins prenant pour nous. Et en fait, on laisse cette partie-là du métier qui est moins notre affaire, finalement. Enfin, c'est pas notre spécialité d'opérateur. Nous, on leur explique comment faire un bel habitat partagé et ensuite qu'on pourra exploiter pour eux, quoi. Ça, c'est une partie du métier. Et puis après, il y a les opérations qu'on développe, nous, les clés en main qu'on développe, nous, pour certains investisseurs, où là, effectivement, on va sourcer des actifs. On va développer des plans d'adaptation, des choses comme ça, avec des conseils qu'on va les prendre à côté archi et compagnie. Et on va finalement monter un clé en main et on va aller voir un investisseur et lui dire voilà, on a ce truc là, il faut acheter ce bien là, financer ses travaux, nous on est capable de vous accompagner dans la gestion de ces travaux, et in fine on vous verse un loyer.
Est-ce qu'il y a eu de la réticence de la part des investisseurs au début ? Parce qu'ils peuvent se dire bon, ce modèle, on sait pas si ça marche, on a un bail qui est signé, mais faut que la société existe encore dans quelques années. On n'a pas de track record, et ça, c'est ce que détestent le plus les investisseurs, c'est pas avoir d'historique. Alors, tu me diras, tu as l'historique des pays voisins qui ont démontré le business plan. Mais voilà, moi, les investisseurs, je les vois venir en disant bon, on voit bien les chiffres, mais est-ce qu'on y croit, quoi ?
Ah, il a fallu batailler, hein. C'est pour ça qu'entre la création de la boîte fin 2020 et le premier habitat partagé, il s'est passé du temps, parce qu'il a fallu développer le projet, mais parce qu'il a fallu trouver le premier investisseur qui a cru au PowerPoint qu'on était en train de lui présenter, et qui a dit « Ok, je me lance, j'y vais ». Donc on s'est appuyé sur les atouts de ce modèle d'un point de vue immobilier, donc c'est du résidentiel, des actifs qui gardent une bonne réversibilité quand même, on est capable de les repositionner assez facilement, on n'est pas sur des grands ensembles dont on ne sait pas quoi faire si jamais l'opérateur se plante, donc ça, on a essayé d'axer les choses le plus possible dessus. On est sur des actifs qui aussi ont souvent une valeur, un prix métrique d'achat qui est un peu au-dessous du marché, parce que plus difficile, moins de liquidité au démarrage pour les... c'est grand. Il y a des travaux à faire, donc en fait pour des particuliers c'est difficile à acheter, donc
c'est vite des gros montants,
les investisseurs pros arrivent à faire des opérations un peu plus intéressantes.
Oui, d'autant que la prise à bail avec un loyer qui est plus élevé qu'une location classique, tu fais rentrer tes capex, ton acquisition, enfin, tu arrives à dérouler le business model peut-être beaucoup mieux qu'un particulier qui va acheter la maison de 300 mètres carrés, qui va se dire j'ai 2000 euros de mètre carré, de travaux par mètre carré, donc en dehors de l'acquisition j'ai déjà 600 000 euros de travaux, c'est forcément des montants qui sont colossaux et qui peuvent s'intégrer un peu plus dans une logique de rendement Voilà. Mais je dirais que l'inconnu de l'investisseur, après, ça va être le business model qui va se dire, OK, donc est-ce que ça va bien être plein? Est-ce que ça va être, est-ce qu'ils vont payer le loyer? Est-ce que c'est pérenne sur les 12 ans, sur les 12 ans fermes, quoi.
Maintenant ça va de mieux en mieux,
oui, c'est ça.
Mais au démarrage le premier c'est très compliqué, hein.
Il a fallu trouver quelqu'un qui y a cru, quoi.
Faut trouver quelqu'un qui y croit. On s'est appuyé aussi sur le co-living jeune. Le modèle du co-living jeune, il existe, il fonctionne, donc en fait les gens commençaient aussi à avoir assimilé ça. Donc assimiler le co-living sur une autre typologie de population, c'était un peu plus simple que si on est arrivé en même temps que le co-living jeune frappé aux portes. Je pense que...
Mais j'en discutais l'autre jour avec un investisseur. Moi, j'étais convaincu du modèle après qu'on se soit vu sur cet habitat partagé. Et il me disait, moi, j'y crois pas. Parce qu'en fait, je me dis, il n'y a pas de place. C'est où tu es chez toi, où tu es en RSS, où tu es en EHPAD, mais il y a une sorte de pas d'entre-deux, quoi. Je peinais à argumenter, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle parce que je trouve qu'il y a une vraie belle histoire à raconter. Mais ce qu'on se dit, c'est qu'en fait, oui, il y a une logique terrible d'accompagnement, justement, de trouver des briques pour accompagner le vieillissement.
C'est le parcours de vie du senior, c'est dont on parle. L'EHPAD, enfin, la personne en question, il faudrait lui demander d'interroger quelques seniors, mais personne veut aller en EHPAD. C'est un peu diabolisé par à tort sur certains aspects, hein, mais en tout cas, on se dit, ok, c'est la dernière case, personne n'a envie d'aller à la dernière case tout de suite, donc déjà voilà, les statistiques disent que 20% des seniors n'ont rien à faire en EHPAD, c'est-à-dire qu'en fait des seniors qui sont allés trop tôt faute de trucs. Donc là on parle même pas des personnes qui ont des pertes d'autonomie et qui sont allées pour des pertes d'autonomie, c'est des gens qui sont autonomes entre guillemets et qui sont allés en EHPAD parce qu'ils n'avaient pas de solution adaptée à proximité, ou que la famille était pouvait pas accompagner, donc en fait du coup chercher une solution et voilà. Donc il y a déjà cette population là on l'a dit, il y a les gens qui sont en RSS mais qui en fait commencent à avoir besoin de services, alors coûte plus cher d'être en RSS et tout ce service en fait qu'on est obligé d'acheter à la demande. C'est un gros risque pour les seniors parce qu'en fait quand on achète le service à retardement par rapport à ces pertes d'autonomie, en fait les pertes d'autonomie s'installent.
Grave.
La latence entre le moment où le senior perd en autonomie, la famille s'en rend compte et met en place le service pour suppléer à ces problèmes, c'est cette latence là qui est dramatique pour le senior, parce que pour récupérer en autonomie derrière, c'est très compliqué. L'avantage des modèles intermédiaires comme l'habitat partagé, c'est que le service il est sur place. Monique va pas bien ce matin, on le sait tout de suite, on répond à ses besoins, et si le lendemain ça va mieux, on lui rend son autonomie. Et en fait on s'adapte à ses besoins, donc on a un modèle qui est hyper vertueux sur cet aspect là et après c'est plus une histoire de cadre de vie. Enfin, faut venir visiter un habitat partagé pour se rendre compte aussi que c'est, pour moi il y a d'autres cases à challenger, même si elles existent depuis plus longtemps, que des cases type habitat partagé, où en fait les gens sont dans un environnement sécurisant dans lequel ils font ce qu'ils veulent, convivial, et sur lequel ils ont la main sur tous les aspects.
Est-ce que tu peux nous décrire 2-3 profils types des résidents?
Faut prendre des exemples un peu caractéristiques. Je peux prendre les deux exemples extrêmes en termes d'âge. La personne qui est la plus jeune dans les maisons qu'on a actuellement, elle s'appelle Soline, c'est une dame qui a 70 ans, donc qui est relativement jeune, qui a un Alzheimer, et qui du coup a des pertes de repères, qui font que elle est très dynamique, elle joue au tennis, elle a vraiment un quotidien qui est très dynamique, mais elle peut pas vivre seule chez elle parce que y a des risques que perte d'orientation, elle sorte, et elle revienne pas chez elle. Donc elle est dans un cadre là où elle est suffisamment, en étant accompagnée au quotidien avec des personnes, c'est pas quelqu'un qui fugue directement, mais qui a besoin de repères, qui a besoin d'être accompagnée au quotidien. Donc elle est dans la maison, elle est dans un cadre qui est très dynamique, elle va emmener tous les autres colocataires dans ses activités, ses délires, elle va mettre du punch dans le groupe. C'est pour le coup un élément génial, principe.
Ouais, j'imagine que c'est aussi important pour elle, parce que seule elle n'aurait pas cette interaction si elle restait chez elle. En EHPAD, c'est un peu trop tard. Donc là, ça la permet d'avoir vraiment l'interaction et de garder cette gymnastique intellectuelle.
Exactement. Et elle est avec une équipe en permanence. Donc ces interactions, elle les a avec ses colocataires, mais elle les a avec l'équipe, que ce soit dans des discussions, que ce soit dans le quotidien de l'équipe. Il est aussi assez différent dans un habitat partagé que dans un EHPAD. Aujourd'hui, il y a beaucoup de contacts et de personnalisation, d'échanges, elles vont se balader à deux, elles font leur... Enfin voilà, c'est complètement autre chose. Et dans la même maison, on a une dame qui a 100 ans. donc qui a 100 ans, et qui, elle, pour le coup, a beaucoup plus de difficultés aujourd'hui pour se déplacer. Donc quand ils sortent en groupe,
elle va pas jouer au tennis avec Soline.
Non, mais elle est en fauteuil. Mais quand elles vont se promener sur les bords de Seine à Vilaine, c'est Soline qui pousse le fauteuil de Georgette, l'auxiliaire de vie à côté en train de discuter avec les autres. Donc on crée un cadre, voilà, et en fait Georgette, elle y trouve son compte parce qu'elle est avec des colocataires avec lesquels elle va pouvoir discuter, qui, quand elle est un peu fatiguée, elle va se mettre dans un coin, mais elle va voir, et c'est des têtes qu'elle connaît, une équipe qu'elle connaît, ce qu'elle n'aurait pas en EHPAD.
Ouais. Ouais.
Voilà, donc ça c'est les deux cas un peu extrêmes, mais après on pourra en passer en détail. Il y a des gens qui adorent le piano, qui ont retrouvé le piano, voilà, nous on va se charger de leur trouver un professeur qui va pouvoir venir leur donner des cours à domicile, elles vont apprendre à leurs colocataires, enfin voilà, on est sur des choses qui sont
Il peut y avoir des erreurs de casting, des gens qui restent pas très longtemps parce qu'en fait c'est pas le bon endroit pour eux.
Il peut y avoir des erreurs de casting pour des raisons d'autonomie ou pour des raisons aussi d'adaptation. Enfin, y a des gens qui vont pas aimer la vie en collectivité, vont pas s'y faire et vont décider de partir. Alors il y a pas beaucoup de personnes qui repartent. Généralement, on a un profiling un petit peu au démarrage avec beaucoup d'échanges avec les personnes, avec la famille, avec le senior, pour s'assurer que le projet puisse lui convenir. Mais il y a quand même des sorties liées à ça.
Ouais, donc ça veut dire que la personne, elle est alors je dirais, est-ce que tu peux la mettre dehors, mais je vais employer un terme plus consensuel, c'est-à-dire que quand il y a une erreur de casting, ça va à personne. Est-ce que la personne peut rester parce qu'il n'y a pas d'autre choix et elle va un peu pourrir l'ambiance de la résidence, ou est-ce qu'il y a une issue qui se trouve naturellement ?
Alors, on est attentif à ce que les personnes qui rentrent déjà soient accompagnées aussi par une famille bienveillante, qui cherche le bon cadre pour leurs parents. Et quand on a des doutes un petit peu au démarrage, on convient aussi avec les personnes, avec le senior et avec la famille, qu'il y a une première phase dans laquelle il faut qu'on s'assure que ça corresponde, quoi. La plupart du temps, ça se passe très bien.
Une sorte de période d'essai.
C'est une sorte de période d'essai, mais on est dans un cadre juridique, entre guillemets, du bail qui a aussi ses garde-fous. Enfin, on ne peut pas faire n'importe quoi en termes de période d'essai. Mais,
non, mais mon idée, ce n'est pas de me dire on met les gens dehors. C'est juste de dire, voilà, si ça ne marche pas, ça met en danger l'équilibre de l'habitat partagé dans l'ambiance. Quoi.
Ouais, souvent, en fait, quand c'est difficile, c'est l'équipe qui va faire le travail et qui va amortir ça. Pour permettre au sujet qui va faire des efforts, généralement on se donne une période pendant laquelle on va essayer avec la personne de résoudre le sujet, de se remettre dans une bonne dynamique. Mais si ça fonctionne pas, en fait on prend des décisions, mais c'est relativement simple, parce que si la personne brûle l'ambiance, c'est qu'elle est pas bien à cet endroit là donc ensuite la bonne démarche, c'est de l'aider à trouver une solution qui soit plus en phase avec ses besoins. Donc nous on fait ce travail là que ce soit pour des raisons d'autonomie ou pour des raisons de bien-être quotidien, on va aider les familles et le senior à trouver une solution plus adaptée à partir du moment où on a identifié que l'habitat partagé, c'était plus la bonne solution.
Oui, là c'est vrai qu'intuitivement, j'aurais tendance à me dire, mais ce qu'on disait un peu au début, que les seniors n'ont pas forcément envie de se retrouver à plusieurs. Mais c'est peut-être une idée préconçue. Hein. Peut-être que c'est le cas, mais qu'au final, au bout de quelques jours, quelques semaines, en fait, ils se rendent compte qu'ils sont très contents d'avoir des copains autour d'eux, des gens avec qui peuvent discuter. Et après, il y aura forcément des gens qui préféreront rester seuls.
Il y a tout. Hein. La première maison qu'on a créée, c'était à Rueil-Malmaison. On a les trois premières personnes qui sont arrivées à l'ouverture. Au bout de deux semaines, elles sortaient se balader, elles se donnaient la main. Alors que nous, on était quand même anxieux. Hein. C'est une question qu'on s'est posée au démarrage dans le projet, se dire ok, on va mettre des personnes qui ont l'habitude de vivre seules, on va les mettre ensemble, comment ça va se passer. Mais il y a une forme de bienveillance qui se met en place, même envers les personnes qui sont un peu moins appréciées par le groupe. Dans cette même maison, il y a un monsieur qui est arrivé, ça se passait pas forcément très bien avec le groupe, parce que il était un peu perturbé d'arriver dans une colocation, il était un petit peu colérique, donc à table, de temps en temps, il avait des remarques qui n'étaient pas forcément très agréables. ça rouspétait. Donc en fait, l'équipe entendait tout le monde rouspéter, dire voilà, il faut que. Donc on gère la situation. Mais quand cette personne-là, elle est tombée malade et qu'elle est partie à l'hôpital, les premières à poser des questions sur quand est-ce qu'il revient, comment il va, choses comme ça, c'était celle qui rouspétait contre lui, quoi. Mm. Donc après, c'est un groupe. Hein. Dans un groupe, il y a des moments où on s'engueule, il y a des moments où voilà. Ce qui est important, c'est de gérer ces discussions pour que personne ne se fasse mettre sur la touche.
Mais c'est pour ça qu'il y a les accompagnants aussi qui sont là en permanence.
Ça serait plus compliqué effectivement si on lâchait les gens tout seuls.
Si c'est en totale autonomie, quoi. Ok. Tu peux imaginer un mix co-living senior et co-living classique ou pas forcément?
On fait de l'intergénérationnel déjà. Mm-hmm. Dans une maison, on a une petite coloc. Alors, c'est une mini coloc. Ouais. On a deux étudiantes qui vivent au dernier étage de notre maison de Colombes. Ça se passe très bien. Mm-hmm. Donc on essaye de faire, quand on fait de l'intergénérationnel, on essaye de le faire, mais non. Contraint entre guillemets, donc avoir quelque chose dans lequel en fait les gens se croisent, peuvent passer des moments ensemble s'ils le souhaitent, mais dans lequel ils sont pas obligés de le faire, c'est à dire qu'en fait on peut aussi permettre aux seniors d'être entre eux s'ils le souhaitent, et de pas avoir à supporter les jeunes si finalement c'est pas leur truc, quoi.
J'allais dire, les jeunes n'ont pas besoin de service eux, donc en fait ils ont pas la même prestation.
Ils ont pas. Alors là, en l'occurrence, on est sur un schéma où on offre un toit pour pas cher à des étudiants.
Ils ont une contrepartie.
Voilà. Là, en l'occurrence, il y a une contrepartie, c'est qu'on leur demande de passer une demi-journée c'est 2 heures d'ailleurs, un week-end sur deux avec les seniors. Autour d'une activité ou un truc comme ça, mais voilà.
Donc non, c'est une solution qui me paraissait sur le papier assez facile à écrire, en disant on va mélanger un peu les générations. Si on met des gens plus jeunes, bah, peut-être qu'ils vont pouvoir passer un peu de temps, faire 2-3 services, dépanner sur des courses, ce qui permet de réduire la charge des équipes. Et donc c'est gagnant-gagnant. Après, il faut que ce soit fait intelligemment et que tout le monde joue le jeu. Après, d'un modèle idéal qu'on peut écrire comme ça, il y a la réalité et ça ne peut pas forcément se passer. Voilà. Mais j'imagine que c'est des tests que tu peux mettre en place petit à petit. Et puis,
c'est ça. Mais on aime beaucoup le principe. Mm. Ce qui marchera aussi très bien, on étudie des projets comme ça, c'est de coller un co-living jeune, dimension co-living jeune avec un co-living senior. Mm-hmm. Ça crée de la mixité finalement de population autour du truc. C'est, encore une fois, on participe à pas stigmatiser les seniors.
C'est ça.
Et voilà, donc après, il faut veiller à ce que le cadre ne devienne pas non plus.
Oui, mais c'est remettre un petit peu dans la société, les resocialiser avec d'autres personnes. Donc
on adore ça. C'est une des problématiques qu'on a avec les investisseurs aujourd'hui. C'est que l'investisseur institutionnel, la copropriété, il aime pas ça. Et nous, on adore. donc, quand on est sur des actifs de 300, 400, 600, 800 mètres carrés, allez, on arrive à faire des blocs qui restent à taille humaine et qu'on va mettre en cœur de ville. Donc, la mixité, elle est au pied du bâtiment, autour du bâtiment. Mais quand on travaille avec des promoteurs sur des ensembles plus grands, on va pas prendre l'ensemble en totalité. Mmh. Donc là, on est sur des projets qui doivent être intergénérationnels. Finalement, donc on vient chercher des plateaux dans des immeubles plus grands et c'est plus compliqué à faire accepter à des investisseurs.
D'ailleurs, tu parles de copropriété, là on parlait de maison. Donc en fait, la maison, tu détiens tout. Enfin, il y a un investisseur qui détient tout et tu prends un bail. Tu peux imaginer avoir un morceau dans une copropriété, un grand appartement ou
Ça peut être un appartement, ça peut être un appartement en duplex, en triplex.
Ouais. Qui est dans une copropriété, c'est un grand appartement.
Ouais. Ça pourrait être, on pourrait imaginer un village inclusif avec plein de petites maisons et un service qui est installé là et qui intervient auprès de tout le monde. Le modèle,
il est flexible.
Il brille par sa souplesse. Hein. Mm. C'est l'intérêt que ça doit avoir pour la suite, c'est que c'est du domicile plus du service.
Est-ce que c'est pas le gros point fort justement, c'est de ne pas avoir trop de contraintes, comme tu l'évoquais sur l'immobilier, en disant l'immobilier existant, on peut s'en accommoder, on n'a pas besoin de créer des grandes surfaces, il y a une réversibilité qui fait que si une maison doit redevenir une maison, elle redevient une maison, il y a déjà des espaces communs, en fait tu as fait des grandes chambres, tu as fait beaucoup de chambres, mais tu as fait des grandes chambres. Tu peux éventuellement peut-être casser une chambre pour agrandir un salon et du coup tu récupères un peu d'espace commun, mais la réversibilité...
Elle existe. Ça reste des grandes maisons, donc du coup c'est pas la liquidité.
Ouais, si tu veux en faire des appartements, c'est un peu plus compliqué.
Mais il faut, ça nécessite, c'est un peu de travail. Dans le neuf, on le travaille beaucoup. Dans le neuf, c'est une demande des investisseurs et nous on le travaille beaucoup. C'est qu'en fait, généralement, il y a un plan de réversibilité qui est défini dès le démarrage. Donc en fait, on va On va travailler le projet Coliving Senior et il y a déjà la solution pour pouvoir le remettre en appartement.
Donc, tu as les arrivées d'eau qui sont dans chaque étage pour refaire des salles de bain, il faut séparer.
En fait, avec la situation actuelle, on a beaucoup travaillé aussi sur des projets qui étaient tankés parce que prévus pour de la vente libre avec un marché qui n'était pas du tout dynamique. Donc voilà, et les promoteurs revenaient pour passer d'une version où en fait ils avaient 10 ou 15 lots et le retransformer en Coliving Senior. Donc en fait, la réversibilité, elle existait déjà. Nous, on reprend les plans de ces 10 ou 15 lots qu'on vient regrouper. On le réadapte pour faire du Coliving Senior, mais s'il faut revenir à la version d'avant, en fait, tout est déjà prêt pour ça.
Ok. Vous êtes combien chez Genette aujourd'hui?
Ça dépend de quoi on parle.
C'est ça.
Si on parle de
sens large.
Sens large, on est 45 actuellement. D'accord. Et on va être rapidement plus nombreux, puisqu'on compte toute l'équipe qui est dans les maisons. Et au siège, on est une dizaine.
D'accord. Donc il y a une équipe qui va chercher de l'actif, une équipe qui va chercher des seniors.
Et une équipe qui accompagne les équipes dans les maisons, donc en fait qui supervise tout ça. On a une infirmière coordinatrice. On est très 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 attentif au sujet service et à la qualité de ce service. Donc on a des gens qui ont des compétences médicales pour pouvoir analyser un peu le niveau d'autonomie des seniors, guider les équipes sur le fait d'aller chercher, solliciter les bons prestataires, partenaires médico-sociaux s'il y a des besoins. Voilà.
Il y a eu des évolutions dans le modèle aujourd'hui, dans les services, quelque chose qu'il n'y avait pas, que vous avez proposé avec l'expérience, je veux dire, avec les premiers retours des premiers colocataires, disant finalement il nous manquait ça, on l'a rajouté, on avait proposé ça mais personne ne l'utilise.
Il n'y avait pas la nuit au démarrage. Ouais. En fait, la nuit, on avait prévu de le faire en astreinte. Mm-hmm. La nuit, ça coûte très cher. Dans le reste à charge dont on parlait tout à l'heure, la nuit sur une coloc de 8-9 seniors, c'est à peu près 500 euros par mois.
Par tête.
Juste pour avoir, par tête, pour avoir, pour avoir quelqu'un
qui est là en permanence.
Ouais. Sans marge pour l'opérateur. Là, on parle juste vraiment du coût pur de ce truc-là. Au départ, on s'était dit il vaut mieux baisser le reste à charge parce que le besoin, il est assez faible. Et en réalité, les familles et les seniors, et puis après réflexion, nous aussi, on s'est aligné sur le fait qu'il valait mieux intégrer d'office cet accompagnement de nuit. Pour des raisons un petit peu diverses, c'est qu'on veut que ça soit une solution qui soit pérenne dans le temps. Donc les gens vont perdre en autonomie, donc même s'ils arrivent très autonomes et qu'ils n'ont pas besoin la nuit, en fait, à un moment donné...
Il suffit d'un moment où tu as besoin.
Les gens commencent à avoir besoin. Mmh. Et en fait, mettre ça en place a posteriori et dire à tous les seniors, alors que tout le monde n'aura pas besoin en même temps, il faut remettre 500 euros maintenant par mois en plus, ça c'est... impossible.
C'est dur. Hein.
Donc, et s'il faut de l'accompagnement juste pour une personne, en fait, c'est un coût qui va être exorbitant et qui fera que la personne va devoir aller en EHPAD directement. Mm-hmm. Donc, ça raccourcissait sensiblement la durée de séjour d'un senior. Et le deuxième volet, c'est que on voulait pas aller sur des solutions dégradées pour les seniors. Par exemple, quelqu'un qui aurait on parle de choses, des fuites urinaires ou des choses comme ça, ou qu'il y a des difficultés pour aller aux toilettes seul, les solutions qu'on va leur proposer, même parfois en EHPAD, c'est on vous met une couche, une protection, et puis
vous faites
dans
le lendemain.
Réélection et on attend le lendemain. Quoi. Mm. Et ça, c'est très dégradant, et c'est pas quelque chose qui allait avec les valeurs de chez Genette. Mm. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est dans la maison la nuit, la personne veut aller aux toilettes, elle appuie sur sa montre, on vient la voir, on l'aide à se lever, à aller aux toilettes, on la remet au lit. Si la personne a un petit moment de panique au milieu de la nuit, ça arrive assez souvent aussi. Il y a quelqu'un qui est là pour discuter avec elle, pour l'aider. Si on voulait aller dans l'humain, on est allé dans l'humain jusqu'au bout. C'est un coût supplémentaire, mais encore une fois, on reste moins cher que l'EHPAD.
Avec un service plus proche. D'ailleurs, tu parles tu faisais le geste sur une montre. C'est quoi la technologie qui est utilisée du coup dans les chambres?
Aujourd'hui, on est en train de changer un petit peu les choses. Au démarrage, on était sur de la téléassistance classique. Donc,
il y a des boîtiers.
Un boîtier, puis voilà. Là, on est en train de changer pour évoluer vers une solution qui est développée par une start-up qu'on connaît et qui fait un travail super sympa. Et on est sur des montres, du coup, encore moins stigmatisantes que le bracelet, qui intègrent en plus des technologies GPS, donc qui, s'agissant de personnes qui souhaiteraient, sur lesquelles on sait qu'il y a un risque qu'elles se perdent en sortant, dans se balader dans la rue, choses comme ça, avec leur accord et l'accord de la famille, on peut créer des zones pour pouvoir détecter quand la personne sort de la zone. Il y a des détections de chute aussi automatiques, c'est-à-dire qu'en fait même si la personne n'appuie pas sur le bouton, si elle chute, la montre remonte un signal. Donc des choses, de la technologie qui permet d'accentuer la sécurité.
Donc sans savoir précisément où la personne est à monitorer chaque pas, tu crées un périmètre d'action où tu sais que si elle sort de ce périmètre, ça doit lancer une alerte.
Ça lance une alerte ou alors ça lance le traceur GPS pour pouvoir pour qu'on puisse savoir la retrouver. Et puis aussi, si elle est perdue, elle, en ville, elle appuie sur le bouton. Donc ça, c'est l'autre technique sans qu'on ait forcément à la suivre et qu'on ait cette possibilité de le faire. Si à un moment donné, elle se sent perdue, elle appuie sur le bouton ou qu'elle a un problème loin de la maison, elle appuie, ça envoie le signal. Et dans ce cas-là, en fait, on a le signal GPS, on peut aller la chercher et ou prévenir les secours pour le faire.
Donc, on a trouvé une vraie utilité aux montres connectées en dehors des sportifs.
C'est ça.
Et de recevoir ces textos en permanence.
Puis, du coup, en fait, c'est un super... Enfin, pour le coup, c'est un lieu de test aussi, l'habitat partagé pour ce type de technologie. C'est assez sympa pour ça. Là, on va tester prochainement un système de détection aussi de chute par les sons.
Ah,
donc,
oui.
En fait... il y a un boîtier qui sera contre un mur dans la chambre et qui est capable de détecter une chute ou un problème respiratoire juste à partir de ce qu'il entend dans la chambre.
D'accord.
Donc, c'est des nouvelles technologies qui se développent. Voilà, donc,
Ouais, donc il ne faut pas négliger non plus l'aspect quand même tech de l'habitat partagé, sur lequel il y a une utilité indéniable. C'est peut-être pas des gros coups, mais quand même, il faut intégrer, il faut qu'il y ait à la fois le Wi-Fi partout, des objets connectés, des détecteurs.
C'est, en fait, l'avantage de ces habitats, c'est qu'on est capable de faire ce qu'il y a de mieux dans le domicile. Donc, tous les domotiques peuvent se mettre dans le domicile. Aujourd'hui, on a une capacité d'investir pour améliorer ces domiciles partagés, puisqu'ils sont dédiés finalement à un public de seniors. C'est d'aller au bout de tout ce qu'on peut faire pour qu'ils soient le plus flexible, accompagnant possible pour les seniors. Donc ça permet plein de choses.
Pourquoi chez Jeannette?
Parce que ça a été rapide. Alexandre et moi, on n'est pas frères, mais on a tous les deux grand-mères qui s'appelaient Jeanne.
D'accord.
Et donc en fait, quand on arrivait au moment de trouver le nom, ça a été un peu une évidence, quoi.
D'accord. D'accord. Non, je disais, il y a peut-être des sous-marques que vous pouvez dédier en fonction des types de résidents que vous pouvez trouver. Enfin, il y a plein de choses à penser. Ça peut être rigolo.
C'est pour plus tard.
Voilà, pour les déclinaisons. Ton objectif, c'est d'avoir combien de résidences toi, j'imagine que tôt ou tard, tu as quand même une question de rentabilité. Donc, tu dois avoir une sorte de seuil critique. À partir de quels sont les objectifs, on va dire, de croissance quelle pourrait être la taille du marché comment tu vois les choses?
Je pense que c'est un marché qui est loin d'être saturé en France. Enfin, l'État pousse ce type de développement, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi y a d'autres aides qui aident à pousser aussi ce type d'habitat là dans le futur. Donc il y a un marché qui, enfin, pour le coup, est assez énorme. Nous, notre objectif, c'est déjà à court terme, à horizon 4-5 ans, d'arriver à dépasser la barre des 100 habitat partagé senior. Et après, ça dépendra un petit peu du à quel point on a envie d'appuyer sur l'accélérateur du marché immobilier, la façon dont il se comporte aussi, parce qu'il nous a pas mal freiné ces derniers mois, années.
C'était quoi les freins? C'était les valos?
C'est un peu les rentas attendues par les investisseurs, c'est les investisseurs qui collectent moins, c'est un peu d'attentisme aussi sur la façon dont ça va se passer.
Oui, c'est-à-dire que même si tu proposes des rentas qui ont l'air un peu plus élevées que la location, elle va dire classique, il y a quand même une attente qui va augmenter de la part des investisseurs puisque le taux sans risque va augmenter. Donc on va se dire, ça ne me satisfait plus finalement.
Il y a une vraie augmentation des rendements attendus sur ce type de solution entre le moment où on a lancé le projet et l'état actuel du marché. Qui a un impact sur le modèle et sur les restes à charge aussi des seniors, donc qui freine un peu les choses. Mais aujourd'hui, la vraie problématique, c'est on était beaucoup basé sur des institutionnels comme investisseurs finaux, et ces institutionnels-là, en ce moment, pour beaucoup, en termes de collecte, se comportaient beaucoup moins bien qu'auparavant.
Oui, ça ralentit.
Donc derrière, moins d'argent à placer.
Donc forcément moins de volume derrière de développement. Ok, top. Alors qu'est-ce qu'on a, est-ce qu'on a parlé un petit peu de tout? Est-ce qu'il y a des choses qu'on a oubliées?
Ouais, je pense qu'on a fait un bon tour.
On est pas mal. De toute façon, il y a aussi ton site sur lequel on peut trouver des informations et notamment les résidences qui existent déjà. Ça permet d'avoir une petite idée de à quoi ça ressemble et où elles sont situées.
Ouais, alors on est en évolution le site, mais effectivement, on voit où sont situés les projets actuels, les projets en développement, enfin une partie des projets en développement, et puis ça permet de refaire un point sur le concept général.
Super. Bon, bah écoute, je pense que c'est beaucoup plus clair, donc je n'ai plus qu'à à te dire un grand merci, Gary.
Merci à toi. Salut.